en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour. Parce qu'il nous a quittés le mardi 4 octobre 2005 et parce que la maladie de ces dernières années a empêché notre radio de recueillir sa voix, la rédaction de Canal Academy veut proposer cette émission en hommage à Jean Cazeneuve. Jean Cazeneuve avait été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques le 26 mars 1973. Il siégeait dans la section « Morale et sociologie » au fauteuil de Maurice Reclus, un fauteuil qui avait été, entre autres, celui de Tocqueville. Il avait été président de l'Académie en 1983, choisissant pour thème d'année la communication. Jean Cazeneuve était né en 1915 à Ussel, en Corrèze, ancien élève de l'école normale supérieure, rue d'Ulm, où il fut reçu en 1937, exténué et tremblant, dit-il. Agrégé de philosophie, docteur ès lettres, diplômé de Harvard, ses études l'ont conduit à suivre les cours du professeur Marcel Mauss, neveu de Durkheim, auquel il a d'ailleurs rendu hommage en lui consacrant le premier de ses livres de sociologie. Mais vient la guerre et Jean Cazeneuve est en captivité, une dure expérience qui lui inspire un très neuf essai « Psychologie du prisonnier de guerre » qui parut en 1944. Libéré des camps, il aspire au grand large. Il part vivre 2 ans en Égypte en tant que maître de conférences à la faculté des lettres d'Alexandrie, se passionnant, on s'en doute, pour l'Égypte pharaonique. Puis, et c'est là l'un des aspects les plus inattendus de la vie de Jean Cazeneuve, il part en ethnologue vivre chez les Indiens du Nouveau-Mexique, les Indiens unis, qui n'étaient plus alors qu'une poignée, 250 000 individus. Lors de la cérémonie d'enterrement de Jean Cazeneuve, c'est Henri Amouroux qui a prononcé un discours d'éloge funèbre très émouvant. Écoutez un extrait de ce discours qui évoque justement la vocation d'ethnologue de Jean Cazeneuve auquel Henri Amouroux s'adresse.
Dans la réserve unie, vous étiez le seul blanc, avec un Hollandais né dans la tribu, élevé avec les autochtones, connaissant coutumes et rites, plus indien peut-être que les Indiens, puisque c'est à lui, parfois, que les anciens venaient demander les paroles d'un chant ou le thème d'une légende oubliée. C'est à votre séjour parmi les Indiens que l'on doit ses livres « Les dieux dansent à Sibala », « Les rites et la condition humaine », « La mentalité archaïque », qui, peu citée aujourd'hui, étaient sans doute les plus proches de votre cœur, car les plus authentiques, des livres écrits sans souci de presse, de prix, avec le sentiment d'être le transmetteur de messages qui venaient presque du début du monde.
Dès les années 1960, Jean Cazeneuve se penche en sociologue sur un phénomène social naissant, la télévision. Henri Amouroux évoque aussi ce tournant important de la vie de Jean Cazeneuve qui va mener une carrière exceptionnelle dans l'audiovisuel. Nous écoutons ce passage d'Henri Amouroux, lu par Fernand Guillot.
Vous êtes en 1960 le premier sociologue à consacrer un livre au problème de la télévision. Livre qui sera suivi de bien d'autres, et notamment de cet ouvrage, « L'homme téléspectateur », dont bien mieux que moi aurait parlé mon confrère, votre ami Jean Cluzel, comme il aurait parlé de votre activité au sein de ce qui s'appelait encore le RTF, de votre action à la tête de TF1, où Jean-Louis Guyot vous secondera efficacement. C'est vous qui accueillez en 1977 Raymond Barre et François Mitterrand pour un duel télévisé qui restera mémorable. Et les photos vous montrent, toujours avec le sourire et avec tous ceux qui, après De Gaulle, découvraient le pouvoir politique de la télévision.
C'est ainsi que Jean Cazeneuve a fait paraître successivement plusieurs livres, « Sociologie de la radio-télévision » en 1963, « La grande chance de la télévision » également en 1963, « Les pouvoirs de la télévision » en 1970, « L'homme téléspectateur » en 1974 et plus tard en 1992, « La télévision en 7 procès ». sans parler, mais il faudrait au contraire en parler, de ses communications académiques qui portaient pour titre « La télévision transforme-t-elle la culture ? La télévision est l'ordre des valeurs, l'avenir de la télévision ». La carrière de Jean Cazeneuve fut exceptionnelle, en effet, dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication, puisqu'il fut administrateur de l'ORTF de 1964 à 1974, président du comité des programmes de la télévision de 71 à 74, président directeur général de la Société nationale de télévision de 74 à 78, puis président d'honneur de TF1 depuis 78. Ajoutons que Jean Cazeneuve avait été nommé ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe de 78 à 80. Cet homme affable, dont le sourire reste gravé dans la mémoire de ses confrères de l'Académie, cultivait le bonheur de vivre, si l'on en croit au moins le titre de ses livres, ou de plusieurs de ses livres, « Aimer la vie »,« Psychologie de la joie »,« Les roses de la vie », qui porte en sous-titre « Variations sur la joie et le bonheur », publié en 1999, juste avant l'entrée dans un nouveau millénaire. Le bonheur de vivre et l'humour sont des traits de caractère de Jean Cazeneuve qu'Henri Amouroux a souligné dans son éloge funèbre. On l'écoute, lu par Fernand Guillot.
Aimer la vie. Vous avez aimé la vie, Jean, malgré toutes les traverses et dans toutes les situations. À TF1, n'avez-vous pas, toujours votre sourire, mis l'humour à l'honneur, donnant l'antenne à Desproges, Pierre Bonte, Piem, Collarot et bien d'autres. Sans doute, dans ces dernières années, et vous l'avez regretté, l'humour est-il devenu vulgarité ? Mais ce que vous aviez initié ouvrait une porte de saine gaieté dans la morosité du temps. Vous n'êtes pas responsable de ce qui a suivi.
L'humour, l'humour, à l'Institut, à l'Académie des sciences morales et politiques, chaque fois que l'on prononce le nom de Jean Cazeneuve, on lui attache ce mot, l'humour. Quel meilleur hommage lui rendre que de relire, avec lui, avec vous, ensemble, quelques pages de l'un de ses 40 ouvrages, celui qui s'intitule « Du calembour aux mots de l'esprit », publié en 1996 aux éditions du Rocher et qui avait reçu le prix du Cercle de l'Union et le prix de l'Académie Rabelais. « Du calembour aux mots d'esprit » présente une théorie originale du comique fondée sur une philosophie de la joie du refus des routines. Définition par Jean Cazeneuve du comique. Le comique peut être défini comme un jeu de l'esprit qui rafraîchit notre existence plus ou moins routinière. Alors, pour saluer la mémoire de Jean Cazeneuve, voici, lu par Fernand Guillot, quelques passages où l'auteur nous donne à rire et à sourire. Premier type de comique analysé par Jean Cazeneuve, celui qui joue avec les mots par une ressemblance des sons mais une différence de sens.
La manipulation la plus simple et la plus évidente du langage s'appelle calembour. C'est un cas particulier du jeu de mots qui reste au ras des syllabes et qui joue sur les sons plus que sur les significations, n'atteignant celles-ci que secondairement. Le dictionnaire de Littré, que reprend à peu près celui de Robert, propose la définition suivante. « Jeu de mots fondé sur une ressemblance de sons » et une différence de sens. Le calembour a mauvaise réputation. Il la doit en grande partie au jugement sévère de Victor Hugo, que l'on répète volontiers, et selon lequel c'est la fiente de l'esprit. Le calembour est cette variété de jeux de mots qui se fondent sur les phonèmes plutôt que sur le double sens. On pourrait en trouver de nombreuses illustrations plus ou moins drôles. Sont-elles vraiment comiques ? Sans doute ne déclenchent-elles pas à coup sûr des éclats de rire. Mais elles peuvent amuser et elles sont bien des exemples du jeu qui dérègle le vocabulaire. Voici un peu au hasard quelques perles dans ce registre. À la Chambre des députés, Berryer reprochait au ministre Guizot d'avoir accompagné Louis XVIII à Gand pendant les 100 jours. Ce qui déclencha un tumulte sur les bancs de l'opposition. Le député Dupin mit les rieurs de son côté en déclarant « Voilà un bien grand orage pour un petit ouragan ». On ne saurait parler du calembour sans évoquer le marquis de Bièvre, ce spécialiste que l'on aura l'occasion de citer à un autre propos dans ce livre, car il est l'auteur d'un recueil de bons mots. En 1747, Georges-François Maréchal, marquis de Bièvre, avait bénéficié des bienfaits de Louis XV qui érigea en marquisat la terre de Bièvre. Peut-être le roi voulait-il ainsi rendre hommage à ce virtuose des jeux de mots. Parlant d'un portrait de sa maîtresse qu'il jugeait raté, il disait du peintre « Ce maladroit a fait une croûte de mamie ». De nombreux auteurs, parmi les meilleurs, ont sacrifié à ce type d'amusement. On doit à Cocteau quelques purs calembours comme celui-ci. Le crocodile, crocodile. Je suis né grec, je suis l'aîné. J'ai le nez grec, le nez d'aîné. Dans la série des grands auteurs qui n'hésitent pas à signer d'aussi faibles plaisanteries, n'oublions pas Boris Vian, qui n'était pas toujours d'humeur à aller cracher sur les tombes, puisqu'il osait écrire « Qu'est-ce que fait le berger quand sa porte est fermée ? Il va chercher la clé au pâtre. » Jean Cocteau est l'auteur de quelques perles du même niveau, mais je tiens à citer Georges Elgozy, qui trouvait que les militants syndicaux étaient des piquets de grève.
Piquet et S, bien sûr. Il paraîtrait que le mot calembour viendrait du nom de Kallenberg, qui parlait mal le français. La note est dans le livre de Jean Cazeneuve, je vous la livre telle que je l'ai lue. Dans l'ordre des jeux de mots, où le calembour se borde à bouleverser les sons, les phonèmes, les syllabes, les lettres, on accède à un niveau supérieur, un peu plus intellectuel, la plaisanterie. Elles se fondent sur les mots ou groupes de mots ayant plusieurs sens. Voici quelques exemples donnés par Jean Cazeneuve.
De Boris Vian. Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour un robinet. Le prêtre a un pendu qu'on vient de dégager à temps. Repens-toi. De Jean Cocteau. Le verbe aimer est un des plus difficiles à conjuguer. Son passé est simple, son présent n'est qu'un indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Janson, sur le même thème, Henri Janson. Aimer est un verbe irréfléchi. De Victor Hugo. Les hommes chassent, les femmes pêchent. Sacha Guitry, au restaurant. Comment trouvez-vous le menu ? Très menu. De Jacques Maillot. Un vrai gaulliste ne répond jamais en particulier, mais en général. Fouché parlant de Talleyrand nommé vice-chancelier, il ne lui manquait que ce vice-là. Alphonse Allais. La lune est pleine. J'ignore qui l'a mise dans cet état. Cocteau. Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer l'image de certaines personnes. Du même Jean Cocteau. Un brave général ne se rend jamais, même à l'évidence.
On imagine la collection que Jean Cazeneuve a dû faire de ses plaisanteries. Jean Cazeneuve, c'est la théorie qu'il soutient dans son livre, affirme que le comique, avec ses manifestations, que sont le rire, le sourire et même un simple éclair de joie intérieure, est lié à une petite revanche ludique sur tout ce qui est mécanique, régulier, toujours prévisible et parfois monotone, à force d'être raisonnable. Ainsi sont les histoires de fous. Mais sans aller jusqu'à la démence complète, le comique fondé sur le jeu avec la logique peut se contenter d'une absurdité plaisante. Quelques exemples donnés par Jean Cazeneuve.
La palme revient à un conseil donné par Henri Monnier, et non pas Alphonse Allais, comme on le croit généralement. On devrait construire les villes à la campagne, l'air y est tellement pur. Un autre humoriste disait à un chef de gare « Votre gare est charmante ». Si vous la transportiez à Paris, vous gagneriez un argent fou. Pierre Dac faisait cette constatation. On dit souvent « fermez la porte quand il fait froid dehors ». Mais une fois la porte fermée, il fait toujours aussi froid dehors. Le même humoriste, spécialiste de l'évidence illogique à force d'être trop naturel, disait encore « on nous apprend qu'il fait 40 degrés à l'ombre, mais rien ne vous oblige à rester à l'ombre ». C'est encore lui qui constatait que certaines personnes ne tiennent pas leur parole et ajoutait « Comment la tiendrait-il, puisqu'ils vous l'ont donnée ?» En 1939, pendant la drôle de guerre, on demandait aux habitants des villes de ne laisser filtrer le soir aucun trait de lumière de leur demeure pour éviter de guider les aviateurs ennemis qui venaient effectuer des bombardements. Pierre Dac proposa de simplifier cette parade, qui d'ailleurs était générale dans tous les pays belligérants, en obligeant les aviateurs à porter des lunettes noires.
Et la bourde, qu'elle soit volontaire ou non, elle est, selon Jean Cazeneuve, une revanche de l'insolite sur la routine. On rit du maladroit qui ne se conforme pas à la règle du groupe. Le comique, et l'on retrouve une fois encore la théorie de Jean Cazeneuve, est une invitation à se réjouir d'une exception aux normes et à fêter une évasion par rapport aux usages contraignants. Voici quelques exemples.
Dans ce registre, on peut citer d'abord l'impolitesse par étourderie, ou par manque d'éducation, sans intention de blesser. Un chauffeur de camion complaisant s'arrête pour répondre à l'appel d'une autostoppeuse et lui dit gentiment « Montez, je ne suis pas de ces buffles qui ne prennent que les jolies femmes ». On félicitait l'actrice Madame Denis à l'issue d'une générale. « Il faudrait, dit-elle modestement, pour tenir ce rôle, être belle et jeune. »« Oh !» répondit un flatteur maladroit, « vous donnez la preuve du contraire. » Petit dialogue stupide entre amoureux. « Chérie, que préfères-tu, une jolie femme ou une femme intelligente ?»« Ni l'une ni l'autre, tu sais bien que je n'aime que toi. »
Les hommes politiques aurait le privilège de figurer au palmarès du comique involontaire. Jean Cazeneuve dit qu'il faut avoir à leur égard quelque indulgence pour leurs erreurs de langage, parce que ce sont des hommes qui ont tellement l'occasion de parler. Jean Cazeneuve a relevé quelques jolies bourdes énoncées à la radio ou à la télévision, sans citer les heureux lauréats, courtoisie et délicatesse oblige.
Quand vous êtes dans un monde d'hommes, les gens, si vous les laissez faire, ont tendance à se reproduire entre eux. Je suis fier de ce que nous avons fait, et encore plus de ce qui reste à faire. Sans épouse consentante, il n'y aurait pas de pompier. Le plan sécheresse n'est pas un arrosage.
On ne dira pas les noms des hommes politiques qui ont émis ces jolies bourdes. Allons, vous l'aurez compris, Jean Cazeneuve se réjouissait de tout ce que la vie quotidienne, ordinaire, réserve comme surprise. Et voici en guise de conclusion, quelques lignes extraites des dernières pages de son ouvrage.
Heureux celui qui sait aimer la vie en saluant d'un sourire ou d'un rire les trouvailles qui font pénétrer le jeu, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté, dans les indispensables lois et réglementations hérité du code génétique, de la matérialité, de la logique, de la vie en société. Il ne s'agit pas de s'en affranchir vraiment, car ce serait folie, source d'angoisse ou d'insécurité. Mais quand, dans une mécanique, une pièce vient à être moins bien assujettie, quand elle peut remuer, avoir son mouvement propre, on dit qu'elle a du jeu. Il nous plaît, parfois, de trouver du jeu dans l'immense machine dont nous sommes une partie. Certes, si la pièce un peu mobile a trop de jeu, la montre ne fonctionne plus. Et si nous nous amusons à trop secouer les habitudes, les routines, les contraintes, les règles, il nous arrivera des malheurs. Mais il faut précisément rester dans les limites du jeu. Ce sont celles du rire. Les muscles de notre visage, plus diversifiés que ceux des autres animaux, ont aussi du jeu. Ils peuvent donc servir à autre chose qu'à la mastication. C'est pourquoi le visage qu'éclaire un sourire transcende l'animalité. Peut-être dépasse-t-il aussi la personnalité sociale de l'individu figé dans ses tâches et ses ambitions. Une société dans laquelle on sourit beaucoup, où l'on rit un peu, sera toujours préférable à celle qui assemble des robots pensants. Pour conserver cette aptitude à fêter les jeux du libre arbitre, souvenons-nous de notre enfance. Il n'y a là aucun sacrilège. « Soyez comme des enfants, » disait le Christ. « A-t-on vu beaucoup d'enfants qui ne rient jamais, sauf s'ils sont trop malheureux ?» Le comique, c'est finalement l'un des plus plaisants chemins pour remonter un peu le temps et retrouver le charme des vertes années.
C'est sur ce conseil de Jean Cazeneuve, extrait de l'un de ses ouvrages, « Du calembour au mot d'esprit », paru, je le rappelle, aux éditions du Rocher, que s'achève l'émission que nous avons voulu en hommage à un homme qui fut tout à la fois sociologue, ethnologue, écrivain, essayiste, diplomate, un homme de grande culture et de bonne compagnie, Jean Cazeneuve. Il n'a cessé, en véritable pédagogue, de vouloir mettre son savoir et ses talents au service de la cité. Qu'il en soit remercié.